Jean, chapitre 6, versets 21 à 21, page 691 de vos Bibles blanches. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils les remplirent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur !» Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient.
Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question. Qu'est-ce qui nous donne l'assurance que Jésus est digne de confiance ? Et la réponse, ici dans le texte, c'est les signes que Jésus nous a donnés. Et dans ce passage, on voit qu'il est question de signes. On voit que la grande foule suivait Jésus à cause des signes miraculeux qu'il faisait, au verset 2. Et on voit aussi, ensuite, au verset 14, qu'il est question du signe miraculeux que Jésus avait fait. Et là, dans ce passage, nous avons deux signes. Nous avons le premier signe, qui est la multiplication des pains. Et le deuxième signe, qui est Jésus, qui marche sur l'eau. Alors, qu'est-ce que donc qu'un signe dans l'évangile de Jean ? Alors, je pense que tout le monde a compris, maintenant, qu'il ne s'agit pas d'un oiseau. Non, il s'agit d'un miracle. Il s'agit d'un miracle. Et nous avons déjà vu 3 miracles dans l'évangile de Jean jusqu'ici. On a vu la transformation de l'eau en vin, au chapitre 2. Nous avons vu la guérison d'un malade au chapitre 4 et la guérison d'un homme atrophié au chapitre 5. Mais un signe, c'est plus qu'un miracle, ou sinon on l'appellerait simplement un miracle, on ne l'appellerait pas un signe. Un signe, c'est comme un panneau indicateur. Alors là, il était censé y avoir une photo, mais malheureusement les photos ne sont pas passées. Mais alors, je vais vous la décrire. C'était une photo avec un paysage de montagne. Et y avait un chemin. Et sur chemin, il y avait un panneau. Vous savez, quand vous êtes sur un chemin de randonnée, il y a des panneaux pour vous indiquer la direction, pour vous indiquer là où on est. Et donc, au milieu de ce beau paysage de montagne, il y avait ce panneau qui indique la direction pour savoir où est le chemin. Et donc, un signe, c'est ça. C'est un panneau indicateur. Et comme ceux qui vont être bien contents de trouver le chemin, comme vous êtes perdus, eh bien, le signe va pointer vers un objectif qui est de nous montrer quelque chose. Et l'objectif, là, ici, des signes dans l'évangile de Jean, nous le voyons clairement dans le chapitre 20 de l'évangile de Jean. On lit au verset 30 et 31 de l'évangile de Jean. « Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et le but des signes est donc double. C'est de pointer vers la divinité de Jésus, que Jésus est Dieu. C'est aussi de pointer vers l'assurance que nous avons dans le nom de Jésus. L'assurance d'avoir en lui, par son nom, la vie, la vraie. Et parce que contrairement à ce que nous dit un slogan publicitaire, « la vie, la vraie », nous ne trouvons pas la vie, la vraie dans un supermarché, mais en Jésus-Christ. Et l'enjeu final de ce chapitre n'est donc pas de croire au miracle. L'enjeu final, c'est de croire ce vers quoi les miracles pointent. Et la question qui est posée dans ce chapitre, et plus largement dans tout l'évangile de Jean, est la suivante. Jésus a-t-il, oui ou non, le pouvoir de nous donner la vie éternelle? Alors, prenons d'abord le récit de la multiplication des pains, au verset 1 à 15. Après ces miracles et ces guérisons, Jésus se retrouve avec une foule nombreuse qui le suit. On voit ça au verset 2. Et ce qui intéresse la foule, c'est les démonstrations de puissance de Jésus, et en particulier les guérisons physiques qu'il effectue. C'est pour ça que la foule le suit, c'est ce qu'on voit au verset 2. Et Jésus se réfugie sur une montagne, peut-être pour s'isoler, peut-être pour trouver du calme avec ses disciples proches. Mais on voit que la foule nombreuse le suit. Et on peut imaginer un élément de surprise au verset 5, quand, en levant les yeux, Jésus voit la foule nombreuse venir vers lui, alors qu'il est isolé sur la montagne. Et forcément, une foule nombreuse dans un endroit isolé pose des problèmes de logistique. Comment est-ce qu'on va nourrir toute cette foule quand il n'y a pas de boutique à l'horizon? Et on peut discerner ici la compassion de Jésus qui a le souci de s'inquiéter des besoins de la foule. Mais ceci va être aussi l'occasion d'un test pour son disciple, Philippe. Jésus lui pose une question au verset 5. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Et la réponse de Philippe montre sa perplexité devant cette situation. Même 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour nourrir toute la foule. Alors 200 pièces d'argent constituaient déjà une somme conséquente. Mais cette somme n'est pas suffisante pour nourrir toute la foule qui était présente. Et on voit dans le texte qu'il y avait 5000 personnes. La tâche semble donc impossible. Et si on a lu l'évangile de Jean jusqu'ici, on peut s'étonner quand même un petit peu de la réponse de Philippe. Après tout, il a vécu les précédents miracles de Jésus, notamment le miracle lors de la noce de Cana. Jésus a pourvu à du vin pendant la noce. Donc pourquoi ne pourrait-il pas pourvoir aussi ici? Et ce disciple manque vraiment de foi, n'est-ce pas? Mais ne jetons pas trop vite la pierre à Philippe. Cet épisode montre la difficulté qu'on a à croire en Jésus, à croire dans sa puissance, à croire qu'il peut pourvoir à nos besoins. Et ceci, la difficulté à croire, même quand on a déjà vu les miracles de Jésus. Et cet épisode montre nous-mêmes, en tant que disciples, notre difficulté à croire dans la puissance transformatrice de Jésus dans nos vies. Alors voilà maintenant un garçon fort généreux qui se présente, avec ses 5 pains et ses 2 poissons, pour nourrir toute une foule de 5000 personnes. Et ce que j'aime vraiment dans ce récit, c'est sa sobriété. La narration du récit ne fait vraiment pas dans le sensationnalisme. Jésus dit « Faites asseoir ces gens ». Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 personnes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua à ceux qui étaient là. Il distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, etc. Et c'est simplement au autant qu'ils en voulurent et au lorsqu'ils furent rassasiés qu'on comprend qu'un miracle est en train de se produire. Qu'on comprend discrètement qu'un miracle est en train de se produire ici. Tout le monde a mangé à sa faim avec ses 5 pains et 2 poissons. Et non seulement tout le monde a mangé à sa faim, mais il y a des restes en abondance. Il reste 12 paniers. Et sachant que là, il ne s'agit pas des petits paniers qu'on distribue pour la Sainte-Seine, mais il s'agit de paniers qu'on portait à dos d'homme. Les restes sont donc immensément plus grands que les 5 pains et les 2 poissons du départ. Alors peut-être est-ce que vous êtes sceptique devant les miracles de Jésus. Peut-être est-ce que vous êtes sceptique devant les miracles de Jésus. Mais il y a 3 choses à noter ici. D'abord, comme nous l'avons dit, la sobriété du narrateur, de celui qui raconte ce qui s'est passé. Il ne cherche pas à en ajouter. Et non seulement il ne cherche pas à en ajouter, mais il est très honnête sur l'effet du miracle. On voit que les gens interprètent mal le signe au verset 15, et on va y revenir. Et on voit encore plus loin, au verset 66, que le discours de Jésus, qui explicite ce miracle, a pour effet de faire fuir beaucoup de ses disciples. La narration dans cet évangile ne cherche donc pas à embellir la situation. Et le verset 66 nous montre qu'il y a quelque chose, même quand on a assisté, même si on assistait avec nos yeux au miracle de Jésus, qu'il y a quelque chose de bien plus profond dans l'homme qui nous empêche de croire, de mettre notre confiance en lui. La vue d'un miracle ne suffit pas. Il ne s'agit donc pas d'un blocage rationnel à la base, mais d'un blocage spirituel pour croire, pour mettre sa confiance en Jésus. Et deuxièmement, si on est sceptique, l'évangile de Jean affirme dès le début que Jésus est Dieu. Et de ce fait que Jésus est créateur. C'est ce que nous lisons au chapitre 1 de Jean. Voilà ce qui est dit de Jésus. Il est dit que Jésus est la parole. Tout a été fait par elle, par cette parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus est donc à l'origine de toute la création qui nous entoure. Et plus que ça, il soutient la création. Et quoi d'étonnant donc, si Jésus est le créateur de tout ce qui nous entoure, quoi d'étonnant à ce qu'il puisse recréer au sein de cette création? Quoi d'étonnant à ce que le créateur puisse recréer comme Jésus fait dans ses miracles? Et troisièmement, on peut croire dans ce récit parce qu'il n'y a pas de meilleure interprétation de ce récit. Et vous pouvez lire toutes les autres interprétations que vous trouverez sur les miracles de Jésus, sur ce qui se serait véritablement passé. Et vous verrez que ces explications ne sont pas satisfaisantes. Et si vous êtes sceptique, je vous invite à investiguer ce texte de l'Évangile de Jean et vous met au défi de trouver une meilleure explication que ce qui s'est passé, c'est véritablement passé, qu'il y a véritablement eu miracle, que ce qui est raconté dans l'Évangile de Jean s'est réellement passé. Mais comme nous l'avons vu, le problème n'est pas d'abord rationnel, le problème est d'abord spirituel. C'est dur pour l'homme, il y a quelque chose qui bloque l'homme pour mettre sa confiance en Jésus. Deuxièmement, un signe qui se nourrit du passé. Et on voit donc un miracle. Un miracle est donc un signe, on l'a vu, qui a pour objectif de pointer vers une réalité qui est bien plus grande encore. Alors vers quoi pointe le signe de la multiplication des pains? Et pour le savoir, il faut d'abord se tourner vers le passé. En effet, le peuple juif qui est là présent autour de Jésus est imprégné de son histoire. Et comme tout peuple qui est imprégné de son histoire, il y a des symboles qui font tilt. Et imaginez par exemple que j'organise un rassemblement à la Bastille. Et en tant que Français, la Bastille va réveiller en nous plein de symboliques. On va penser à la Révolution, à un renouveau, à un nouvel espoir pour la nation. Et un étranger ne va peut-être pas comprendre, mais par contre, quelqu'un qui connaît l'histoire de France, ou un Français, il va tout de suite comprendre toute la symbolique qui est derrière la Bastille. Et la Bastille est chargée de symbolique pour des événements qui se sont réellement passés dans le passé. Et ici, c'est la même chose. On voit effectivement qu'il y a quelque chose qui fait tilt dans le public au verset 14. On voit, à la vue du signe, les gens disaient, c'est lui, le prophète. Alors le peuple était en attente d'un prophète encore plus grand que Moïse. Et dans le livre de Deutéronome, il y a Dieu qui dit à Moïse, je ferai surgir pour eux, donc pour le peuple, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, donc comme Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que ce prophète dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Jésus ne serait-il donc pas le prophète, le grand prophète annoncé par Moïse ? Moïse, c'est celui que Dieu a utilisé pour sortir le peuple de l'esclavage d'Égypte, pour le mener vers la terre promise, là où coulait le lait et le miel. Et dans son périple, le peuple a dû traverser de nombreuses épreuves. Des épreuves qui ont même mis en cause l'autorité de Moïse. Déjà, le peuple quitte l'Égypte, pays d'abondance, pour se retrouver dans un désert. L'estomac commence à se tordre de douleur. Le peuple a faim. La question se pose, comment va-t-on survivre dans le désert ? La crédibilité de Moïse, qui mène le peuple vers nulle part finalement, est remise en question. Et on lit dans Exode, au chapitre 16, « Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété, c'est pour nous faire mourir de faim dans cette assemblée que vous nous avez fait sortir dans le désert, » dit le peuple à Moïse et à Aaron. Et effectivement, on peut se poser la question là, mais comment le peuple va-t-il survivre dans le désert ? Et Dieu donne alors sa réponse. Il fait pleuvoir la manne, jour après jour, du ciel. Et Dieu fait survivre son peuple, jour après jour, dans un milieu hostile. Et dans le désert, le peuple prend conscience que c'est Dieu qui donne la vie et que c'est Dieu qui soutient la vie. Le peuple prend conscience de sa dépendance physique totale vis-à-vis de Dieu. Et entouré que nous sommes par les biens matériels, par les boutiques, où on a l'abondance, nous pouvons facilement oublier que c'est Dieu qui pourvoit en tant que créateur et que c'est Dieu qui soutient la création. Mais cette manne qui tombe là du ciel est également un signe. C'est également un signe là qui pointe vers quelque chose de plus grand. Un signe qui pointe vers une nourriture, mais une nourriture qui nous donnerait la vraie vie éternelle. Et il y a un deuxième indice là dans le passage qui puise dans la symbolique du passé. Au verset 3, le verset 3 nous précise que la Pâque était proche. La Pâque célèbre la délivrance du peuple d'Israël, la délivrance de l'esclavage d'Égypte, mais aussi ultimement la délivrance de la colère de Dieu. La Pâque est une histoire de substitution. Un agneau sans tache est sacrifié. Le sang de cet agneau protège la maisonnée de la colère de Dieu. L'agneau meurt pour protéger la maisonnée, pour que celle-ci ne subisse pas la mort. Or, la Pâque juive est également un signe qui pointe vers un sacrifice ultime, vers une substitution ultime, vers un agneau ultime qui fera en sorte que plus un seul sacrifice ne sera utile. Et la preuve, on peut le voir aujourd'hui dans l'Église. Fait-on un sacrifice à Pâques ? Ou fait-on un sacrifice lors de la Sainte-Cène ? Eh bien non, on mange du pain en souvenir, le pain qui est le symbole du corps de Jésus. Et l'évangile de Jean pointe dès le début vers ce sacrifice ultime. Voilà ce que dit Jean le Baptiste, dès le chapitre 1, à propos de Jésus. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » On a donc ici deux symboles qui font tilt. La manne dans le désert et la Pâque. Le signe de Jésus, la multiplication des pains, se nourrit de ces symboles pour pointer vers quelque chose de plus grand encore. Et voyons maintenant vers quoi ce signe pointe. Alors il s'agit de bien interpréter le signe. Le problème avec un panneau indicateur, c'est qu'on peut mal l'interpréter. Si on reprend la randonnée, imaginons encore ce panneau dans la montagne qui pointe, qui indique un lac. On voit bien un lac dans cette direction. À l'œil nu, à 500 mètres, on voit un lac. Et naturellement, on va penser que le panneau indique ce lac qu'on voit à l'œil nu. Mais peut-être que le panneau, lui, pointe vers un lac qui est plus loin encore, qui n'est pas encore visible à l'œil nu, qui est encore derrière la montagne. Un lac encore plus grand, encore plus magnifique. Et encore faut-il croire que ce lac est derrière cette montagne, derrière ce lac qu'on voit et qui est si proche. Et manifestement, c'est le problème qui est ici avec la plupart des gens qui voient les signes de Jésus. Ils interprètent ces signes pour un objectif immédiat, alors que le signe pointe vers quelque chose de bien plus grand encore. Et on peut s'interroger effectivement sur les raisons qui poussent les gens à suivre Jésus. Est-ce que c'est simplement les guérisons qu'il effectue ? Et le problème, c'est peut-être la vision matérialiste qu'ont les gens qui suivent Jésus. Ils veulent une réponse immédiate à leurs problèmes matériels du jour. Et au verset 15, on voit « Cependant Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. » Et il est bien difficile de ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Et on voit là, les gens veulent faire de Jésus un roi, immédiatement. Ils veulent faire de Jésus un roi, afin certainement de les libérer du problème politique de l'époque, qui était l'occupation de la Palestine par l'oppresseur romain. Ils veulent une réponse à leurs problèmes politiques et matériels immédiats. Mais Jésus, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour répondre à un problème bien plus grand encore, bien plus profond. Et dans la suite du chapitre, Jésus va lui-même l'expliquer. Il va expliquer le signe de la multiplication des pains par des paroles. Et regardons là pour l'instant simplement le verset 35. Jésus leur dit « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors comment interpréter le signe alors ? Cette vie terrestre, elle est éphémère. Nous allons tous mourir un jour. Jésus est le pain qui nous nourrit pour nous donner la vie éternelle. De même que le peuple d'Israël traversait un milieu hostile dans le désert, nous sommes en marche dans cette vie vers la terre promise. L'oppression, les puissances du mal qui nous entourent sont plus que jamais opposées au peuple de Dieu. Mais Jésus nous donne l'espérance et nous donne la puissance pour continuer la route. Nous avons besoin de nous nourrir de Jésus jour après jour, car c'est lui qui nous garantit le banquet final. Et de même que le peuple d'Israël grommelait dans le désert à force de manger de la manne jour après jour, nous pourrions grommeler d'entendre parler de Jésus jour après jour dans l'Église. Mais nous avons besoin de nous nourrir de Jésus, parce que c'est Jésus qui nous donne l'assurance, qui va vaincre la peur, qui va nous donner la confiance pour la vraie vie, pour l'objectif, pour la vie éternelle. Et c'est lui qui nous garantit, c'est Jésus qui nous garantit d'être invité au festin des noces, au festin des noces de l'agneau dont il est question en Apocalypse 19. Même en tant que chrétiens, nous avons donc besoin de nous nourrir de Jésus. Dans ce monde qui est chargé d'épreuves, qui est semé d'épreuves jour après jour, nourrissons-nous donc de Jésus jour après jour, parce que c'est lui qui nous transmet la vie, c'est lui qui nous permet de résister et de nous soutenir jour après jour. Et l'enjeu du passage est donc le suivant. Jésus a-t-il, oui ou non, le pouvoir de donner la vie éternelle ? Et pour attester que Jésus a ce pouvoir, il va donner un signe, une assurance de plus, qui va appuyer le premier signe de la multiplication des pains. On voit du verset 16 au verset 21. Les disciples sont sur une barque pour traverser la mer de Galilée. Ils rament au milieu de la tempête. Et là, au milieu de la furie des éléments, ils voient Jésus marcher sur l'eau. Alors on peut être blasé de ce genre de récit. On est tellement saturé d'effets spéciaux à travers tous les films qu'on voit. Mais là, il ne s'agit pas d'un trucage. Il s'agit de la réalité. Jésus marche sur l'eau. Voici donc un nouveau signe qui a de nouveau la double fonction de prouver la divinité de Jésus. Il a l'autorité sur la nature, il est créateur. Il n'y a donc rien d'étonnant à le voir dominer sa création. Et le signe a aussi pour fonction de pointer vers l'éternité. L'objectif qui est de mettre notre confiance en Jésus pour l'éternité. Alors comment est-ce qu'on peut voir ça ici ? Dans la Bible, le peuple juif n'est pas vraiment un peuple tourné vers la mer. Ils ne sont pas reconnus pour être un peuple marin, à l'inverse de leurs voisins phéniciens qui, eux, faisaient commerce avec leurs navires dans toute la Méditerranée. Par contre, en Israël, il y avait de bons marins d'eau douce, comme certains des disciples. Mais dans l'imagerie de l'époque, la mer représente le chaos, la fureur des éléments déchaînés, le plus grand péril et ultimement la mort qui engloutit. Il y a quelques semaines, en juillet, nous avons étudié le psaume 18. Et dans ce psaume 18, il est question de la mer à travers une expression, les grandes eaux. Et là encore, la mer symbolise les adversaires puissants de David qui cherchent à l'engloutir dans la mort. Ici, dans ce passage, Jésus est de nouveau le nouveau Moïse. Moïse avec qui le peuple a traversé la mer Rouge à sec, délivré ainsi de l'oppression et de la mort. Jésus nous délivre du chaos en nous faisant passer de la mort à la vie. Et on peut vivre bien des chaos dans notre société actuelle. Et nous vivrons encore bien des chaos, et peut-être vivons-nous des chaos aussi aujourd'hui. Mais l'enjeu ultime est de mettre notre confiance en Jésus, parce que lui seul peut nous délivrer du chaos final. En lui, nous n'avons pas peur. Jésus vainc la peur. Il nous donne notre assurance en tant que chrétien. Quelles peuvent être les péripéties de cette vie, de cette courte vie, face aux promesses glorieuses que nous fait Jésus pour l'éternité? Mettez donc votre confiance en Jésus ce matin, ou renouvelez votre confiance en lui, et renouvelez votre confiance aussi la prochaine fois que vous prenez le pain et le vin à travers la Sainte Seine. Prions. Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Oui, Jésus, tu es la nourriture qui nous nourrit, jour après jour, pour l'éternité. Aide-nous à saisir cela, cette réalité, et à mettre toujours plus notre confiance en toi, en ton nom, notre assurance en toi. Que nous ayons toujours faim et soif de toi, Jésus, car tu nous donnes la nourriture en abondance pour la vie et pour la vie éternelle. Amen.